France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois la cinéaste Anne Fontaine, une des grandes figures du cinéma français, bien connue pour des films comme Nettoyage à sec, Mon pire cauchemar ou plus récemment la comédie Président. La voici de retour avec Boléro, un très beau film sur Maurice Ravel qui sort en salle ce mercredi. Une occasion de se pencher sur ce compositeur génial et mystérieux vu par les yeux de la cinéaste et de son interprète Raphaël Persona. L'occasion de revenir aussi sur la vie de mon invité Anne Fontaine, où la musique a occupé une place importante qui l'a tout naturellement conduite vers ce boléro. Bonjour Anne Fontaine.
Bonjour.
C'était Reventura et ses collégiens, un groupe que j'adore, qui a parmi tant d'autres enregistré là en version jazzy, 78 tours, ce boléro de Ravel. Vous-même, au début de votre film, vous êtes amusé à mélanger plein de versions différentes et toutes amusantes de cette œuvre célébrissime.
C'est très ludique en fait de voir comment des cultures différentes sont emparées du boléro, où ça peut être... des Mexicains qui dansent avec des vêtements très scintillants. Francis Blanche qui...
Bien sûr, avec Pierre Dac.
Avec Pierre Dac qui scande le rythme avec des paroles insensées.
Le parti d'en rire.
Le parti d'en rire. Les Coréens qui sont sur pointe, qui font une danse break dance en même temps très... Ouais. Il y a quelque chose de très démocratique dans le fait que tout le monde peut s'en emparer.
Tout le monde s'est approprié ce thème. Oui.
C'est incroyable le fait qu'on peut le mettre dans les... Par exemple, les Deep Purple, ouais, on dit qu'ils se sont beaucoup servis de la rythmique du boléro.
Le boléro aussi, les, ouais, Deep Purple.
Et les Rolling Stones aussi. Donc ça va partout.
En tout cas, voilà, c'est une façon très joyeuse d'entrer dans ce film et puis d'entrer au cœur du sujet, parce qu'on peut dire que ce film qui s'appelle Boléro, c'est à la fois un film sur l'histoire de la genèse du Boléro de Ravel et aussi, on peut dire, d'une certaine façon, un film sur Ravel et sur sa vie. On est, voilà, à la fois sur l'œuvre et sur l'homme.
Voilà, c'est pas un biopic classique, c'est plus un biopic du boléro, en fait. Et à travers la rythmique du boléro, voilà, on rencontre ce personnage assez fascinant, de dandy, brillant, secret, attachant, très sensible, qui est Ravel. J'ai essayé de faire un film où on est dans le processus créatif avec lui.
Et c'est ce qui est très bien rendu. En tout cas, pour la genèse de cette œuvre-là, tellement étonnante.
Oui, sur les sons de la vie courante qu'il perçoit dans l'usine, par exemple.
Ça commence comme ça, d'ailleurs, dans une usine mécanique.
Où il y a des bruits énormes de poulies, de roues. Et c'est vraiment réel, c'est-à-dire qu'il a vraiment été très souvent dans cette usine. Et ça prouve un esprit extrêmement moderne, comme si la mécanique ait été insérée dans la rythmique du boléro. C'est ce qui va se produire.
Alors, faire un film autour de Maurice Ravel, c'est, je dirais, à la fois presque une évidence, parce que c'est probablement le compositeur français le plus joué dans le monde, le plus populaire, le plus important par certaines œuvres comme le boléro. Mais en même temps, c'est le personnage le plus mystérieux de l'histoire de la musique. C'est quelqu'un qui ne disait rien de lui-même. Donc, comment construire un film sur un personnage tellement caché ?
Bah, c'est ce qui m'a bouleversé, en fait. C'est justement cette discrétion, cette vulnérabilité, cet aspect féminin, masculin. Il n'a aussi pas de sexualité avérée, non, hormis les bordels, les maisons closes dans lesquelles il venait peut-être retrouver comme une famille d'accueil de la nuit puisqu'il ne dormait pas.
Voilà ce qu'a raconté Manuel Rosenthal notamment, oui, oui.
Oui, c'est
Et vous
c'est...
en faites de très jolies scènes d'ailleurs, mais... Et puis il a toujours ce petit sourire de distance, comme
oui,
ça.
Oui, de l'ironie, de l'autodérision. Oui. Donc c'est un homme qu'on aime parce que justement, il montre sa vulnérabilité, il n'est pas dans le surmoi.
Oui.
Et moi, j'aime l'idée aussi que cette musique ait surgi par 17 minutes. Vous vous rendez compte,
c'est... Ça on va y revenir, c'est assez extraordinaire. En tout cas, voilà un Ravel très attachant, on vous reparlera de lui par Raphaël Persona, qui incarne merveilleusement le personnage. On va y revenir ensemble, Anne Fontaine, mais c'est un peu le principe de l'émission. On va d'abord remonter un petit peu dans le temps de quelques-uns de vos souvenirs musicaux, en particulier en commençant par celui-ci. Anne Fontaine, mon invitée, la réalisatrice de Boléro, film autour de Ravel. Et, faut vous le dire, chers auditeurs de France Musique, par ailleurs, la fille d'un merveilleux organiste qu'on vient d'entendre, Antoine Sibertin-Blanc, là, ici, dans un concerto de Handel, aux orgues de la cathédrale de Lisbonne, au Portugal, où vous avez vécu longtemps et dont il était l'organiste titulaire, votre père.
Voilà, mon père, après avoir été l'organiste de la Madeleine, à 19 ans, il s'est retrouvé aux grandes orgues de la cathédrale de Lisbonne, qui sont magnifiques.
Oui.
Et donc, on a été élevés à Lisbonne, notre famille, jusqu'avant le bac, jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai été élevé au Portugal, j'ai fait des instruments.
Donc, vous avez grandi dans la musique, c'est ça?
On ne peut pas échapper. Un organiste, il y avait deux pianos chez moi, plus un orgue, plus des chœurs qui venaient aussi répéter. Donc, on était envahis par la musique.
Vous jouez même du luth, paraît-il.
Oui, parce que mon père trouvait que la guitare, c'était trop banal.
Ah oui.
Donc, le luth, il y a beaucoup de cordes, comme vous savez. Donc, c'était un autre apprentissage.
Et pour compléter, votre frère s'appelle Jean Chrétien.
Jean Chrétien, comme en hommage à Jean Chrétien Bach.
Oui, c'est ça.
Probablement. Mais moi, mon prénom, mon vrai prénom, c'est Fontaine.
Oui, c'était Fontaine, votre prénom.
D'origine. Vous appelez
Fontaine Cybertin Blanc, devenu plus tard Anne Fontaine, c'est votre nom d'artiste. Parce que, après donc, cette enfance dans le milieu le plus musical qu'on peut imaginer, finalement, vous n'avez pas décidé de devenir musicienne, mais vous êtes beaucoup tournée vers la danse, qui a joué un rôle très important dans votre vie.
J'ai fait de la danse depuis l'âge de 7 ans. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été dans une compagnie de danse qui s'appelait Joseph Russillo, voilà. Contemporaine. Et c'est là où Robert Hossein m'a trouvée.
Voilà. Il y a même un journal de l'époque qui dit que les jeunes filles les plus chics de Paris allaient chez Russillo. Hein.
C'est vrai.
C'est vrai.
Il y avait
Caroline de Monaco.
Il y avait la princesse Grace, il y avait Sophia Loren. Tout le monde allait là. Mais ils n'allaient pas dans mon cours. Mon cours était quand même plus.
Vous ne faisiez pas partie de ce groupe?
Non, parce
de ce milieu.
Ben non, elles n'avaient pas le même niveau de danse non plus.
Ah oui, aussi, bien sûr.
C'est
ouais.
Ça.
Et donc, Robert Hossein, effectivement, vous a découvert. Dans une interview, vous dites que Robert Hossein a été votre bon génie. Donc, vous lui restez très reconnaissante de vous avoir lancé, si on peut dire, dans son spectacle Notre-Dame de Paris. Hein.
De Victor Hugo, voilà. Et de faire Esmeralda.
Et vous dansiez Esmeralda, donc.
Oui, donc j'arrivais sur scène au Palais des Sports comme une sorte d'apparition. J'entendais toute la salle crier Esmeralda dès mon arrivée. C'était comme une expérience incroyablement forte pour une fille si jeune. Et Robert Hossein, a le moral. C'est quelqu'un qui voyait les choses en grand.
Oui, oui. Mais c'est un homme que vous avez aimé dans ce travail, en tout cas.
J'ai trouvé qu'il avait une personnalité d'abord extrêmement charismatique. Et puis, je n'avais jamais fait de cours de théâtre. Il m'a vu danser et il m'a demandé de préparer une audition avec Audie Berti et Tennessee Williams. Et je me suis retrouvée, alors que je n'avais aucune formation, à jouer devant lui.
Ouais.
Et il m'a dit... Ça sera toi.
Voilà, et c'est comme ça que vous êtes donc dans un premier temps devenue actrice, comédienne, je ne sais pas le mot que vous préférez. Vous avez tourné pas mal de films ou de téléfilms qui ne vous ont pas laissé un souvenir inoubliable.
Non, parce qu'il n'était pas inoubliable.
Vous avez quand même tourné, on parle de lui aujourd'hui presque plus dans le domaine du fait divers, je ne sais pas comment il a été avec vous, mais avec David Hamilton.
J'ai tourné avec David Hamilton qui m'a dit comme phrase assez... étrange. Je n'aime pas du tout les femmes brunes, mais il en faut bien quelques-unes pour
donc vous êtes
équilibrer. Alors ça m'a rassurée. Mais il y avait un metteur en scène qui s'appelait Claude Dana, qui faisait le film. Ça s'appelait Tendre Cousine, si je ne me trompe pas. Non, j'ai fait vraiment des expériences assez mineures, mais ça m'a permis de me rendre compte que je n'étais pas une actrice extraordinaire non plus.
Voilà, et c'est en fait le grand tournant a été évidemment le fait de vous tourner vers la mise en scène, chose qui a été liée pour une part à votre rencontre avec Fabrice Luchini. Hein.
Disons que Fabrice Luchini a été un détonateur pour que j'arrête vouloir être actrice.
Vous le trouviez tellement acteur, lui, que vous disiez moi je ne le suis pas.
Je trouvais qu'il avait un rapport à la langue, une telle originalité.
Ouais.
Et donc, d'une certaine façon, en effet miroir, je me disais, au fond, je ne suis pas très intéressante.
Oui.
Et le fait de me rendre compte très vite que je n'étais pas très intéressante, parce que acteur de cinéma, c'est quand même quelque chose d'extrêmement spécial. C'est-à-dire qu'il faut s'abandonner. Et moi, je n'arrivais pas à m'abandonner. Je voulais que la caméra se pousse de là et ne regarde pas ce qui se passait. Donc, c'est le contraire d'être acteur de cinéma. Et donc, ça m'a beaucoup appris sur la mécanique étrange des acteurs qui m'a tout de suite intéressée.
Alors, dans ces années-là, je ne sais pas quelle place la musique continuait à occuper dans votre vie, mais je sais que vous aimiez beaucoup, par exemple, les chansons de Khaled.
Oui.
Pourquoi ?
J'aime la rythmique, le son, la voix sexy, mais qui vient... Il y a un côté en même temps biblique, je ne sais pas, ça vient de loin. Et peut-être ça me parle comme les fados me parlent, mais d'une manière plus gaie qu'un fado qui est très mélancolique.
Khaled, c'était Didi en 1995, une des musiques adorées alors, et qu'elle aime toujours d'ailleurs, mon invité aujourd'hui, Anne Fontaine, pour la sortie de Boléro, ce film qui sera au cinéma mercredi prochain. On évoquait donc à l'instant, voilà, votre assez brève carrière d'actrice, votre rencontre avec Lucchini, avec lequel vous avez vécu quelques temps, et puis donc le passage finalement à l'écriture d'un film et à un premier film, Les histoires d'amour finissent mal en général. Encore un titre de chanson d'ailleurs.
Voilà, formidable d'Erita Mitsouko.
Oui, c'était drôle de choisir un titre d'une chanson existant déjà pour un film.
C'est vrai.
Mais qu'est-ce qui vous a conduit à franchir le pas d'une certaine façon, à écrire ce film et à le réaliser?
Je trouvais...
En 92 précisément.
En fait, ce qui m'a poussée, c'est les scénarios que je rencontrais quand j'étais actrice. Je trouvais les dialogues tellement pauvres de ce que j'avais à jouer, que petit à petit, je les corrigeais. Donc, je proposais au metteur en scène des autres dialogues. Et au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de...
Moi-même.
Moi-même, de manière modeste, pas pour être réalisatrice, mais pour faire un scénario que je pourrais peut-être confier à un réalisateur. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, quand j'ai fait lire ce scénario à Jacques Audiard, qui était scénariste, il m'a dit, je trouve le ton très original et formidable, il m'a encouragé, mais il m'a dit, je pense que tu ne pourras pas le vendre, parce que c'est trop singulier. Et donc là, j'ai été atterrée, je me suis dit, j'ai fait ça pour rien. Et puis, petit à petit, j'ai eu le CNC. Et
on peut même dire que ce premier film a été, selon la formule, un succès d'estime.
Oui, prix Jean Vigo et, Semaine de la critique. Et donc, ça m'a encouragée à continuer. Alors que je pensais m'arrêter tout de suite. J'ai trouvé ça tellement dur de faire un film, tellement anxiogène, que je m'étais dit, je vais m'arrêter.
Et finalement, alors vous en avez tourné 19. Quand même beaucoup au fil des ans. On peut citer évidemment Nettoyage à sec en 1997, Nathalie en 2003, Mon pire cauchemar en 2011, récemment Moi président que j'ai adoré, qui m'a fait énormément rire, mais aussi beaucoup d'autres films assez divers, j'ai envie de dire. Au début, on disait, elle aime bien les personnages ambigus, la complexité des sentiments, mais en fait, il y a une grande diversité de registres. Comment ça se construit une œuvre comme ça, au hasard, des rencontres, des fantaisies, avec la volonté de faire quelque chose de différent à chaque fois?
C'est pas une volonté, il y a une part aveugle qui fait que je me décide sur un sujet si je sens une proximité, que ce soit en comédie ou que ce soit des films comme Les Innocentes ou Police. Il faut que je sente quelque chose qui est mystérieux pour moi, où je ne sais pas forcément pourquoi je le fais, mais je le découvre en le faisant.
En faisant le film.
Et j'aime pas savoir trop bien. Et puis, je trouve que pour essayer de faire quelque chose d'intéressant, il faut se mettre dans un état de fragilité. Par exemple, sur Ravel, je n'ai jamais fait un film sur un compositeur et sur la musique.
Et en plus, un compositeur mystérieux, comme vous dites,
oui.
C'est ce mystère
ça m'a accroché, oui.
On va évidemment revenir à ce Ravel, mais sans entrer dans des détails, puisque ce n'est pas vraiment une émission sur le cinéma, mais plus sur la musique. Mais justement, la musique dans tous ces films, elle joue un rôle plus ou moins important. Il y a un certain nombre de musiciens qui vous ont accompagné, qui sont revenus. Je pense notamment à Bruno Coulet, par exemple, à Alexandre Desplat et à d'autres, sans doute. Comment la musique est-elle entrée dans vos films, d'une certaine façon?
En fait, pour moi, la musique doit apporter une partition, ne jamais pléonasmer le sujet, donc avoir vraiment un rôle fort. Et donc, ça dépend beaucoup des sujets. J'ai fait des films où il n'y a pas de musique.
Il n'y a pas de musique,
c'est entre ses mains. Par exemple, un film avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré, il y a une musique qui arrive à 5 minutes de la fin, qui est donc tout à fait spéciale. Moi, j'essaie de concevoir la musique au début, c'est-à-dire pas à la fin.
Ah bon, souvent effectivement, c'est quand le film est bouclé que la musique arrive.
J'essaie de chercher la couleur et d'avoir quand même un sentiment sur la musique. Mais la musique de film, c'est quelque chose de délicat parce que parfois, ça appauvrit le fait du silence. Et là, justement, sur Ravel, c'était formidablement intéressant de voir les moments où la musique joue comme musique de film ou comme un acteur du film. Et c'est bon, bien sûr mon film le plus musical.
Ah oui, très musical. Et il y a des moments vraiment...
où on est dans la musique, tout simplement.
Même quand on la connaît bien, on se laisse réemporter là, par ces grandes plages musicales, notamment la répétition de la valse, par exemple, dans votre film, dirigé par Ravel.
Dirigé par Ravel, qui a un trou et qui, de manière avec mauvaise foi, dit à son orchestre qu'ils ne sont pas du tout dans le bon tempo.
Dans votre filmographie, il y a... d'autres films où, effectivement, le rôle de la musique est relativement important. Et je pense notamment... En plus, c'est un petit peu la même époque. Je pense à Coco avant Chanel, film que j'avais adoré, ou dans lequel Audrey Tautou joue donc la toute jeune Chanel. Gabrielle, pas encore Coco. Et on y entend notamment voilà, cette ambiance 1900 qui n'aurait pas déplu à Ravel.
Ah ben non.
J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Troc, Coco dans le Troc, Coco dans le Trocadéro. Kika, kika, vu Coco, et Coco, et Coco, kika, kika, vu Coco, et Coco. Pauvre Coco que j'aimais tant, il est peut-être victime d'un crime, oh, messieurs, plaignez mon tourment, car il est bien légitime, j'ai beau crier, le chercher, de la Bastille à l'hippodrome, je l'ai partout fait afficher, je ne ferai pas ça pour mon âme. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Troc, Coco dans le Troc, Coco dans le Trocadéro. Kika, kika, vu Coco, et Coco, et Coco, kika, kika, vu Coco, et Coco.
Voilà, ça c'est une vraie scène hein, de votre film, Anne Fontaine.
Des deux sœurs, donc Marie-Gilin et Audrey Tautou qui font leur petit spectacle dans les cabarets de l'époque, bien avant qu'elle soit cette femme si célèbre.
Voilà, on est vraiment dans le monde du musical. Vous avez même aussi dans un autre film d'ailleurs évoqué presque une ancienne vedette d'opérette, c'est Daniel Darieux dans Nouvelle Chance.
Oui, voilà. Ça c'est vraiment une rencontre extraordinaire d'avoir le privilège de filmer cette femme exceptionnelle tellement vivante, tellement moderne dans sa façon de jouer.
Oui.
Et j'ai fait ce film pour elle. À la fin, elle chante. Alors qu'elle ne voulait plus chanter, je lui ai dit, c'est pas grave, chantez même à voix basse. Et en fait, à voix basse, elle a vraiment chanté.
Ah, ça, ça devait être un moment effectivement assez extraordinaire avec Daniel Darieux. Ça, c'était en 2006, donc 2 ans après Coco avant Chanel, avec cette chanson d'époque, mais aussi les musiques d'Alexandre Desplat, qui est d'ailleurs aussi, oui, on peut dire, issu de l'école de Bussy-Ravel, lui, vers
l'autre
côté. Tout à
fait. Ah oui, c'est extrêmement ravelien, sa façon de concevoir la musique.
Et donc, avec Coco, vous étiez déjà dans cet exercice très particulier qui est de donner vie au cinéma à un personnage qui a existé, dont on connaît des films, des photos, des témoignages, etc. On sait donc qu'on va pas recréer exactement le même, mais qu'on va créer quelque chose. C'est une démarche très, celle du biopic, mais tout de même assez singulière.
Sur Ravel et Chanel, ce qui est très différent, c'est que sur Ravel, il y a presque, les gens ne le connaissent pas, à part des spécialistes et des gens qui s'intéressent de très près à la musique. Il n'y a pas de représentation comme Chanel, c'est vraiment le physique est inscrit partout.
Oui.
Donc, je me suis arrêtée dans la narration au moment où elle devient célèbre.
Oui.
Parce que c'est une partie qui est l'éducation, comment elle a grandi, quelles ont été ses racines, où sont ses racines d'autodidacte. Alors que Ravel, vous vous attaquez à quelqu'un qui est un génie. Il y a quelque chose d'insaisissable et quelque chose qui, je trouve, de très moderne dans la façon, finalement, assez quasi féministe d'être au monde. Il n'y a pas cette force, cette autorité. Il était très...
Il savait ce qu'il voulait.
Voilà, très déterminé,
oui.
Mais il ne pesait pas sur les autres.
Non, non.
Et puis, il y a quelque chose de...
Il ne parlait pas de lui-même, il ne s'est penché jamais.
Non, il était gracieux, il avait de l'ironie. C'est un esprit français.
Mais vos sources, alors, pour finalement créer le personnage librement, mais vous avez quand même le souci, évidemment, qu'il lui ressemble le plus possible.
Oui, qu'il y ait une véracité, en tout cas.
Voilà. Donc, c'est quoi? C'est les photos, notamment pour faire des scènes, par exemple, ça peut être des photos.
Photos de lui. Il y a même un moment où on le voit dans un petit film noir et blanc, on le voit parler sans entendre sa voix,
oui,
malheureusement.
C'est vrai, oui.
Mais on voit quelque chose sur les choses festives aussi. Il y a des photos. La photo sur son lit de mort. J'ai retravaillé sur quelques photos cultes, mythiques, quand il attend...
Quand il se baigne aussi, non?
Quand il se baigne, quand il attend au balcon de sa maison de Montfort, il est en attente de métaphysique, de rien. Et là, l'acteur d'ailleurs a fini par lui ressembler presque physiquement, alors qu'au départ, j'ai pas essayé de reproduire un physique identique. D'abord, c'était pas trouvable. Et
Il était, disons que Ravel, votre personnage par exemple n'est pas très grand dans le film, mais Ravel était vraiment tout petit.
Il était complexé, il était très très malingre, oui. Petit, complexé physiquement, toujours habillé avec un chic incroyable, et un éternel garçon.
Et en même temps, dès le début du film, il y a une image où tout d'un coup, Ravel, persona, est là, et tout d'un coup on le voit de profil. On se dit, mais c'est vraiment le profil de Ravel.
Le nez a poussé.
Exactement lui. Je ne sais pas si vous avez travaillé l'image avec l'acteur.
Je l'ai fait maigrir de 10 kilos.
Et
donc son visage a tout d'un coup pris un tourment, pris une profondeur. Parce que comme il est vraiment beau, Raphaël, le fait de lui donner ces 10 kilos de moins ont changé même sa façon de jouer. Cet équilibre beaucoup plus fragile, puisque le film commence quand il commence à avoir certains troubles.
Oui.
Et ça, c'est intéressant aussi, parce que les troubles font surgir à la surface des choses qui restaient enfouies. Et le rapport au succès, qu'est-ce que c'est que le succès pour un créateur? Et là, il y a quand même une chose assez intéressante, que le succès, son plus grand succès était celui qu'il aimait le moins, d'une certaine façon, ce morceau.
Ce boléro.
Boléro.
Où il disait qu'il n'y avait pas de musique dedans.
Il n'y a pas de musique, oui, il disait.
Enfin, moi, je ne suis pas d'accord d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de musique par ailleurs chez Ravel, et notamment, par exemple, dans ce jardin féerique de ma mère Loa.
France Musique, Étonnez-moi Benoît Dutertre. Thank you.
Mamerlois de Maurice Ravel, bien sûr, qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec le film. On va y revenir avec notamment Misia Godepska. Mais Anne Fontaine, j'insiste aussi sur le fait que cette belle version qu'on vient d'entendre est jouée par Alexandre Tarot et Bertrand Chamaillou, et qui ne sont pas du tout pour vous non plus des étrangers. Alexandre étant même un des acteurs du film.
Hein. Il joue un critique assez hostile au style de Ravel, puisque il le compare à Debussy de manière assez violente pour Ravel, puisqu'il lui dit qu'il est très sec et que sa musique ne dégage aucune émotion, mais il va ensuite évoluer.
Voilà, c'est Pierre Laloux hein, qui, de fait, défendait Debussy, mais a attaqué méchamment
violemment
Ravel.
Et Ravel va se défendre. Mais ce qui est assez drôle, c'est de voir ce pianiste incroyable qui est Alexandre et qui est un grand spécialiste de Ravel jouer cette hostilité.
Il a accepté ce rôle méchant.
Mais aussi, Alexandre Tarot est le pianiste qui joue tous les morceaux de piano.
Voilà, qu'on voit jouer par les acteurs au piano, mais qui en fait sont joués par Alexandre Tarot.
Voilà, où les acteurs sont synchronisés sur la musique. Parce que j'avais la chance d'avoir un acteur qui a travaillé pendant presque une année le piano pour être synchrone et que la caméra ne soit pas, puisse aller des mains aux épaules, au visage, sans tronçonner le montage.
Alors le film donc tourne vraiment évidemment autour de la vie de Ravel, parce que si c'est la jeunesse du Boléro, il y a un certain nombre de retours en arrière sur ses débuts au conservatoire, sur la période de la Première Guerre mondiale et des choses comme ça. Mais le film, ce portrait de Ravel, on peut dire, est aussi très joliment rehaussé, si j'ose dire, par la présence constante dans le film de deux femmes. Hein. L'une qui est une grande femme riche et extravagante, qui a joué un grand rôle dans la vie artistique de l'époque, était Ida Rubinstein, qui est jouée merveilleusement par Jeanne Balibar. Et puis l'autre, très joliment jouée aussi par Doria Tillier, qui est donc Misia Godepska, qu'on voit avec son frère Sipia Godepski, qui ont été des proches amis de Ravel. Et vous avez choisi de mettre ces deux-là en avant. C'est vrai qu'elles ont compté, mais vous aviez aussi, je ne sais pas, une sympathie pour ces deux femmes-là en particulier et leur rôle auprès de Ravel.
Bah, Ida Rubinstein, même si je n'avais pas de sympathie, elle est
là,
absolument
pour le Boléro, c'est sûr, oui.
Celle qui est commanditaire du Boléro. Du Boléro. Mais de surcroît, j'avais une sympathie pour cette femme baroque, excessive, avec un sens de la théâtralité. Et elle va danser le premier Boléro, la genèse du ballet, évidemment, ou Béjart. Parce que Béjart a vu, d'après ce que je sais, il a vu, quand il était très jeune, la première représentation du Boléro. Et en fait, c'est la même structure sur une table.
Bon, effectivement, ça a monté lui-même, oui, par la suite.
De manière beaucoup plus frustre, d'une certaine façon, et expressionniste, la chorégraphie. Et elle est très drôle, Jeanne, dans le rôle. Elle secoue Ravel, qui essaye à chaque fois d'inventer une raison pour laquelle il n'est pas prêt.
Parce pour ne pas faire cette œuvre, il n'a pas envie de la faire.
Il
propose d'autres alternatives, comme d'orchestrer Al Benitz, comme de faire autre chose.
Oui, mais il ne peut pas, parce qu'Al Benitz, il y a des droits qui sont déjà pris. Donc il est face au vide de la création et face à des pendules qui font des bruits, des sons de répétition. Petit à petit, il y a cette idée de la répétition qui arrive dans le film par son interposé.
Oui, alors d'ailleurs, ça, on va revenir vraiment à ce qu'est la genèse même du Boléro, mais dites-nous aussi un mot du rôle de Misia, qui est vraiment alors la confidente, l'intime de Ravel dans tout le film. Il y a un peu Marguerite Long aussi, qui est jouée par
Emmanuel De Vos.
Emmanuel De Vos, mais c'est quand même surtout Misia.
Misia est une sorte d'égérie de femme inaccessible et en même temps mélancolique et aussi intelligente, qui a pas de talent musical, mais qui a fait de la musique avec lui. Et donc, il y a une sorte d'amour de sa part à lui empêché, qui est platonique, et qui me faisait penser un peu comme, vous savez, cette nouvelle de Lermontov que Claude Sautet a mis en scène dans Un cœur en hiver, qui est aussi un univers de musique, où Emmanuel Béart ne peut pas se faire aimer par Daniel Auteuil, où c'est un personnage qui ne peut pas montrer ses émotions. J'ai pensé que Ravel, dans cette passion sans concrétiser les choses, mais ce que je trouve beau, c'est que quand il réalise au moment où c'est trop tard qu'elle l'aimait vraiment. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez les mots de Madame du Deffand à son homme de compagnie, « Vous m'aimiez donc avant de mourir ». Et c'est ça qui donne un lyrisme qui est très beau, je trouve.
Et c'est donc, il faut le préciser, que ce sont les neveux de Misia, Jean et Mimi Godepski, qui ont créé Enfant, Mamerlois, dans la version donc, pour piano à quatre mains. Quant à Ida Rubinstein, il faut quand même rappeler qu'elle a été aussi la créatrice du Martyr de Saint-Sébastien de Debussy, la commanditaire d'œuvres très très importantes, notamment de Stravinsky, et notamment d'ailleurs quasiment en même temps que le boléro de ce merveilleux ballet qui s'appelle « Le baiser de la fée ». Le Divertimento du baiser de la fée, une œuvre de Stravinsky que j'adore et qui fut donc créée à l'Opéra de Paris à l'instigation d'Ida Rubinstein, qui a commandé également le boléro de Ravel, qui pour cette raison occupe une place centrale dans votre film, Anne Fontaine, boléro. Alors, on va écouter dans un instant, le public va comprendre pourquoi, la chanson Valencia. Mais donc, en gros... Ida Rubinstein demande à Ravel d'écrire un ballet, il ne trouve pas. Et puis tout d'un coup, il y a la question de la durée qui va leur permettre de gagner un peu, d'avancer un petit peu dans ce projet.
Oui, en fait, il arrive à faire quelque chose, un inventaire de ce qu'il faudrait peut-être pour aborder ce morceau de danse où il a des dates fixes, donc il faut quand même qu'il avance.
La création est déjà programmée, quoi.
Ah oui, c'est dans deux mois.
Il ne sait pas du tout ce qu'il va faire.
Et il n'a aucune inspiration. Ce génie n'a aucune inspiration. Donc ça remet les choses à leur place, comme quoi on peut ne pas trouver, alors qu'on est quand même maître d'œuvre d'incroyables morceaux. Et là, 17 minutes.
Alors, c'est ce qu'elle lui dit. Il lui demande combien de temps va devoir durer ce ballet.
Il négocie. Le nombre de minutes et ils arrivent à 17.
Voilà.
Et 17 minutes, quoi faire avec 17 minutes ?
C'est son point de départ.
Oui, c'est donc un point très scientifique, enfin très mécanique. Ouais. Et c'est ça qui est fascinant parce qu'on a rarement vu quelqu'un créer quelque chose à partir d'une durée très déterminée.
Et peu à peu se précise l'idée que ça va être autour d'une mélodie.
Hispanisante.
Hispanisante, qui durera une minute et qui va donc se répéter 17 fois.
Voilà, c'est ça qui est la solution la plus pragmatique.
La plus extraordinaire. Et ça s'est quasiment passé comme ça.
Hein. Ah oui, c'est pas lyrique. Mais comme c'est un orchestrateur de génie, voilà. On peut avoir l'illusion que c'est assez simple. Mais c'est du simple extrêmement complexe.
Voilà. Mais alors, il lui restait encore donc à trouver cette mélodie hispanisante, parce que Ravel était évidemment toujours très tourné vers voilà, l'Espagne. Mais alors, dans votre film, c'est en fait sa femme de ménage, sa femme de chambre, qui va tout d'un coup lui donner l'idée. Et ce n'est pas complètement inventé, ça.
Non, c'est vrai. Il était donc dans les tourments de la création qui n'arrivait pas à se produire. Et à un moment donné, il est en train de prendre son petit déjeuner, servi par sa gouvernante, et il lui demande quels sont les airs qu'elle écoute. Et alors elle dit « J'aime beaucoup ce que vous faites, bien sûr, mais Valencia, par exemple. »
Cette chanson à la mode.
Voilà, c'est à la mode. Et elle commence spontanément à chanter cet air-là. Et on voit Ravel tout d'un coup ouvrir ses yeux, sourire et être illuminé par la fraîcheur et la simplicité
de cette mélodie.
Voilà. Et il va la jouer au piano avec elle qui chante. Et donc, c'est comme un déclic de la vie, de la vie populaire qui défait l'austérité dans laquelle il s'était mis pour essayer de trouver son inspiration.
Voilà.
Et ça fait partir les choses.
La chanson populaire fait partir les choses. Il va falloir la répéter 17 fois, une minute. Et effectivement, dans la chanson Valencia, grand succès de l'époque, on va l'entendre tout de suite. Il y a quelque chose, effectivement, qui est bien présent de cette rythmique et de cette tournure mélodique du boléro.
Les yeux pleins de fièvre, j'ai laissé cueillir de mes lèvres le premier baiser. Valencia, des réquises où la brise éveille les fleurs d'oranger. Valencia, d'où rivage où le nuage emporte nos rêves lésés. Valencia, fleur perverse qui nous verse tous les parfums. Je t'aime, car j'ai le bonheur suprême dans ton paradis d'amour.
Voilà les deux versions, si j'ose dire, du boléro de Ravel. D'abord Valencia par Emma Liebel en 1926, et puis le boléro, là en plus dans la version dirigée par le compositeur, puisqu'il a enregistré un certain nombre de ses œuvres. Je suis toujours avec Anne Fontaine qui sort ce magnifique film boléro autour de Ravel. Ravel, personnage à la fois distant, souriant, mystérieux, qui n'aime pas épancher les sentiments, ce qui me rend très sympathique. Mais en même temps, dans votre film, on le sent également, finalement, très hanté par la mort.
Il est hanté par sa musique, que ce soit la valse qui
la finit, fin de la valse
qui finit en il dit ouais. ça finit comme dans la vie ouais. tout s'effondre, et la fin du boléro est ouais. aussi, on peut dire, un orgasmique ouais. ou bien fatal ouais, ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est une métaphore de l'existence très très forte, mais c'est très sensuel et très érotique ouais. C'est ça qui crée aussi cette interrogation sur lui, parce que comment cet être aussi serré à l'intérieur avait ce déploiement aussi ample.
Ça me rappelle une phrase de mon ami regretté, habitué de cette émission, Sempé, le dessinateur, qui était un fou de Ravel. Et il voyait Ravel comme un de ces petits bonshommes de ses dessins. Il disait comment ce petit bonhomme-là a pu produire des œuvres aussi puissantes, aussi sensuelles,
aussi fortes, quoi.
Envoûtantes que la valse ou Daphnis et Chloé. Oui.
Parce qu'il n'était pas conscient que ça provoquait de l'érotisme.
Ouais.
Et donc, il est au départ complètement effondré quand il découvre que Jeanne Balibar,
alias Ida Rubinstein,
danse de manière aussi ouais. offerte.
Vous avez, Anne Fontaine, pour écrire ce film et le réaliser, puisé dans un certain nombre de sources, vous êtes pas mal inspiré, d'ailleurs vous le dites ouvertement, de notre ami et ex-confrère que je salue à distance, Marcel Marna, et de son livre sur Ravel. Hein.
Oui, bien sûr, c'est sa biographie qui nous a... dont on a pris les droits, voilà. Et qui est une biographie extrêmement complète oui. de ses œuvres, mais qui met l'accent plus sur l'aspect musical que l'aspect intime, qui oui. restait oui. Totalement secret. Donc il y a plein d'hypothèses. Et donc moi, j'ai inventé que dans les maisons closes, il faisait mettre des gants aux jeunes filles pour entendre le crissement voilà. du gant sur la peau.
Il ne va pas plus loin que ça. Hein,
non, mais c'est déjà super loin.
C'est déjà très loin. Et puis, vous avez aussi tourné, vous le disiez tout à l'heure, dans certains lieux réels, notamment cette petite maison de Montfort-l'Amaury, qui était à l'échelle de ce petit bonhomme.
Ah, mais c'est une façon. Maison... J'ai eu la chance de tourner dans la vraie maison, oui. vous vous rendez compte, de Ravel, qui est une maison mythique et qui est totalement bouleversante, parce qu'elle est complètement investie par lui. C'est lui qui a choisi les tissus, les frises... Il était un décorateur, il avait une idée très précise de son décor. Et en fait, on pouvait être, pour le tournage, que quatre. Quatre, alors qu'on était 60. Donc vous imaginez, c'est incroyable de tourner tout d'un coup à très peu de personnes. J'ai aimé cette maison de poupée, où finalement, on est obligé de le filmer de très près et d'être avec lui à l'intérieur de son cerveau.
Voilà. Tout est petit, tout est... calculé, dosé, tout est mécanique presque chez Ravel, et ça n'empêche pas pourtant ces extraordinaires épanchements de pure musique. la danse finale de Daphnis et Chloé, le chef-d'œuvre symphonique de Ravel, avec le Boléro, bien sûr, et quelques autres œuvres. Là, c'était en plus sous la baguette du créateur Pierre Monteux, à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres. Et donc, Anne Fontaine, dans votre film, la musique est évidemment omniprésente, pas seulement de Ravel, d'ailleurs il y a, au début il y a un petit bal avec des jolies valses de Chopin.
Je crois que Ravel aimait beaucoup Chopin.
C'est pour ça que vous l'avez choisi.
Oui.
Voilà. La présence d'Alexandre Tarot, il sort d'ailleurs un disque, hein, des musiques de votre film,
oui.
Avec tout le programme au cœur duquel figure notamment effectivement la valse, le boléro.
La pavane.
La pavane pour une infante défunte et encore quelques autres. Il y a aussi dans le film des échappées vers la campagne, vers la mer, notamment ces scènes magnifiques hein, tournées en Bretagne, au moment où justement Ravel cherche l'inspiration et n'arrive pas à la trouver, mais cette présence comme ça dans des belles maisons du début du siècle au bord de l'eau, c'est de très très jolis moments du film, Anne Fontaine.
Mais c'est important aussi d'avoir quelque chose qui respire, et moi j'ai fait attention à qu'on puisse avoir ce sentiment d'être dans une durée où la musique marque son territoire, parce que c'est terrible de tronçonner. Donc j'ai essayé d'équilibrer, et c'est un moment de plaisir, et de, en même temps, il fait rien. Il n'y arrive pas, il se promène avec Missia.
Il n'y arrive jamais, il n'y arrive pas souvent, mais il explique à un moment donné dans le film qu'il a, il peut passer très très longtemps avant de trouver l'idée. Et une fois qu'il a l'idée, après, ça va très vite.
Voilà,
hein. C'est un peu tout le sujet de cette genèse. Hein.
Oui, tout à fait. Ça, ben c'est pas mal en même temps, parce que quand ça arrive vite, c'est quand même très, très, très réussi.
J'imagine qu'avec le producteur du film, vous avez dû vous pencher sur cette question qui, heureusement, maintenant est réglée, je crois, des droits du boléro.
Oui.
Parce que sinon, ça aurait coûté sans doute très cher.
C'est tellement complexe,
c'est
cette
un roman policier,
et que c'est un sujet en soi.
Oui.
Donc,
je n'ai
pas essayé de m'y mettre. J'en connais certains éléments, mais c'est du Ravel aussi. Finalement, c'est tellement dingue comme succession.
Oui. Effectivement, en tout cas, je vous suis reconnaissant parce que c'est la première fois que, voilà, qu'on fait revivre un de ces grands personnages de la musique française du début du XXe siècle au cinéma, et c'est très réussi.
Je vous remercie.
L'acteur aussi, d'ailleurs.
Je trouve que ce que fait Raphaël, personnage, oui. On oublie complètement que c'est un acteur.
Il y a des moments où on se dit, tiens, il devait être comme ça, Ravel. Vraiment,
oui,
c'est...
et puis il amène une douleur secrète qu'on devine petit à petit... Et il arrive à sourire en étant douloureux. Et ça, c'est fort. Il n'y a jamais de psychodrame, jamais d'exacerbation. Moi, j'aime cet homme aussi par cette pudeur qui rend beaucoup plus émouvant la fin de sa vie que s'il avait été expressionniste.
Ouais.
Parce qu'on peut croire que c'est un être qui est froid. Il est le contraire d'un être froid, mais il est retenu en lui-même. Et c'est ça qui crée l'émotion. Quelqu'un m'a dit... qu'au fond, c'était incroyable de rendre un personnage aussi émouvant alors qu'il ne veut pas montrer ses émotions. Et moi, c'est parce que...
C'est ce que vous avez réussi.
Tant mieux.
Vous êtes sur les charbons ardents. Comment on est 4 jours avant la sortie d'un film?
C'est comme s'il allait avoir un acte de naissance, mais on ne sait pas très bien comment ça va naître.
Vous allez guetter les cinémas des Champs-Élysées le premier jour, etc. Non, vous avez passé tout ça.
Ah non, non, je ne fais pas tout ça, comme vous dites. C'est un état intérieur bizarre, parce que, comme vous savez, les sorties de films, c'est brutal.
Oui.
Il y a des chiffres, et donc il y a un côté mathématique. Il n'y a pas un truc idéal. Je vais nager en général, mais je vais nager tous les jours.
Ah bon ?
Donc, j'essaie de trouver des...
Vous nagerez mercredi à 14h pendant que les premiers cinémas enregistreront les chiffres. Ou alors, parfois aussi, on peut penser au film d'après pour oublier celui qui est en train de sortir.
Ah ben ça, c'est déjà fait.
C'est déjà... Ah ben, vous voyez.
Vous avez deviné.
Vous reviendrez nous en parler alors. Merci Anne Fontaine. On va se quitter à nouveau avec Ravel, à nouveau avec le boléro, mais encore une version plutôt amusante, celle, on l'a évoqué au début, de Francis Blanche et Pierre Dac, mais ici reprise par les 4 Barbus.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Oui,
qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis. En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la patrie de tous les autres partis.
et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie et que l'autre partie s'est partie et compris qu'il faut être en partie réparti tous en un seul parti. Notre parti,
parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti.
Nous avons placé nos idéaux bien plus haut
de tous ceux qui ont pas pris de parti.
Notre parti, des idéaux.
C'est le marteau de
et
tous ceux qui
nous
ont pas pris de marteau.
Notre mieux, grévin, Dieu de
c'est le marteau de tous ceux qui
pour que ce qui ne va pas aille encore mieux.
C'est le marteau de tous ceux qui nous ont pris de marteau.
Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire.
La joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la saignité,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti.
Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Nos buts sont déjà fixés.
Réconcilier les yeux brouillés.
Faire que le veau d'or puisse se coucher.
Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler.
Amnistier les portes condamnées,
à l'exception des porte-manteaux.
Tiens, ça rime pas.
Je sais.
C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an.
Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus.
Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich.
Voilà quel est notre programme. Voilà le programme.
Mon île programme.
Mon île programme.
Mon île programme.
On le trouve partout.
Je le sens sous
mon programme.
Un des récits.
Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, notre parti.
Oui, non,
c'est
merde.
Choisis la chose que vous dites.
Et voici ce qu'est notre parti.
Oui.
Le Boléro de Ravel, revu par Francis Blanche, Pierre Dac et Les Quatre Barbus, à l'occasion de la sortie du film Boléro d'Anne Fontaine dans toutes les salles à partir de mercredi. Tous les renseignements eh bien, sur l'appli Radio France et sur francemusique.fr. Et puis je vous recommande aussi, si vous aimez le Boléro, d'aller l'écouter par l'Orchestre National de France le 26 mars à la Philharmonie, ou encore d'aller voir l'Heure Espagnole à la Salle Favart sous la direction de Louis Langrée. C'est la fin d'Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Stéphane Touvenin, réalisation Béatrice Trichet. La semaine prochaine, spécial Jean-Yann avec mes deux invités Éric Pérez et Anne Cadillac. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sur France Musique, vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.